Interview.
1 du Bois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc-en-Divois. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Séverine Gervy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la médiathèque départementale Divois-Vercors.
Oui, tout à fait.
À Die. Ensuite, nous avons Mélanie Crière.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes donc coordinatrice d'autonomie et de prévention auprès de la maison départementale de l'autonomie. Et ensuite, Florence Heldin, coprésidente de l'espace social et culturel du Divois. Et donc, bonjour.
Bonjour, Mireille.
Toutes les trois, vous êtes ici pour nous parler de la semaine bleue qui va avoir lieu sur le Divois et même de la vallée de la Drôme du 3 au 9 octobre 2022. Une semaine consacrée aux aînés, aux personnes âgées, aux seniors. Et donc, il y aura toute une proposition d'animation, de rendez-vous aussi dans diverses villes de la Drôme pour promouvoir aussi une idée qui est à voir aussi, c'est celle de « Changeons nos regards sur les aînés et brisons les idées reçues ». Voilà, ça c'est la thématique abordée pour cette année. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que vous auriez à dire justement sur ce titre ?
En fait, j'étais contente de découvrir cette thématique parce qu'on avait déjà commencé un petit peu cette année dans le RAV, donc le réseau acteurs vieillissement que je co-anime avec maintenant Mélanie Crière et avant avec Simon Terrail du département et avec Sonia Rochat là depuis un an qui nous a rejoint avec le contrat local santé. On avait déjà abordé cette question, on avait déjà déposé un dossier d'ailleurs qui porte sur le changement de regard, le changement de position et l'accompagnement de ces changements. Et je pense que ça, on vient d'hériter là de 2 ans vraiment difficiles, particulièrement pour les aînés. Je pense qu'on réalise encore à peine ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore pour certains. Et ça a questionné beaucoup les institutions et tous les acteurs, que ce soit public ou privé, sur justement le fonctionnement et les défaillances, les impasses que la société a créées petit à petit autour des aînés. Donc en fait, c'est vrai que sur cette thématique, la changeant de regard, moi, ce qui me plaît, déjà, ça me rappelle Sartre avec son histoire de regard où il expliquait qu'il récupérait son image dans le regard de l'autre et que c'était le seul moyen, finalement, de récupérer une image qui n'était pas vue de l'intérieur quand il se regardait lui-même. Et là, il y a vraiment cette idée qu'à la fois, il y a 3 dimensions. À la fois, il y a les aînés. On parle de changer le regard. Donc, quelque chose est à changer dans la perception qu'on a des aînés. Mais la personne qui regarde, il y a quelqu'un qui porte ce regard, apparemment ce ne sont pas les aînés, d'après la forme de la phrase. Et la 3e dimension, ça serait de dire que quand on va réussir à changer ce regard sur les aînés, il va y avoir des conséquences sur le traitement de cette catégorie de personnes. Donc voilà, moi ça me plaisait parce qu'il y avait cette notion d'inclusion déjà dans la thématique qui est supposée...
Donc, il y a eu une prise de conscience sur ces 2 dernières années. Comme tu disais, Florence, quelles sont-elles, ces prises de conscience et par rapport à quel sujet ?
Ben, c'est un peu justement ce dossier qu'on avait déposé et qui montre... En fait, on n'est vraiment pas les seuls. Hein, on s'est juste engouffré dans cette brèche, mais on montre qu'il y a eu vraiment... il y a un fonctionnement autour des aînés qui a tendance à je vais avoir une parole provocante volontaire, mais on a élevé les aînés à part de la société. On les élève à part de la société. On les met ensemble dans des EHPAD. On les met ensemble dans des activités. On les écarte de la vie citoyenne. On les écarte des décisions. Souvent, les enfants décident pour leurs parents, quasiment, ou le médecin. Mais de moins en moins, la personne âgée, pourtant, son cerveau n'est pas toujours défaillant. Et en fait, on a l'idée, c'est de ramener les anciens au cœur de la cité, à un endroit qu'ils n'auraient jamais dû quitter. En fait, nous sommes tous des citoyens comme les autres. Et je ne vois pas pourquoi le vieillissement aurait droit à un traitement à part, qui d'ailleurs, même politiquement, on retrouve ce décalage. On voit la CAF qui, par exemple, accompagne en tant qu'institution, financée par l'État pour pouvoir régler la vie civile, qui prend en charge de moins 9 mois un individu jusqu'à sa retraite. Et après, hop, on passe sur les caisses de retraite. Et donc, le vieillissement est toujours traité à part du reste de la population. Et je pense qu'on est en train de revenir de ça, de s'apercevoir qu'on a complètement isolé nos aînés dans les structures et dans les fonctionnements, quoi. Et même dans les politiques.
Justement, les hommes politiques l'ont bien compris, d'où leur longévité de carrière, qui vont bien au-delà des 70 ans. C'est-à-dire que, justement, il y a aussi une question qui m'est venue, c'est par rapport à la retraite. La personne qui a exercé toute sa vie se retrouve à la retraite, et il y a une grande partie de ces retraités qui disparaissent très rapidement. Justement, est-ce que c'est ce sentiment de mise à l'écart de ce sentiment d'inutilité aussi qui déstructure l'individu.
Je pense que nos sociétés, en tout cas dans nos sociétés occidentales, je ne les connais pas toutes, mais c'est clair que cette barrière de la retraite, de l'utilité sociale, de la rentabilité d'un individu, et à mon avis, participe à ces sentiments d'isolement, ces sentiments d'inutilité, et du coup d'auto-dévalorisation, parce que changeons le regard sur les aînés. Eux-mêmes ont besoin de changer de regard sur eux-mêmes, de s'apercevoir qu'ils sont encore totalement capables de beaucoup de choses, qu'ils sont légitimes à plein d'endroits. Ils ne s'autorisent même plus eux-mêmes, ils s'auto-censurent. Et effectivement, cette idée de... On est très loin des grands sages africains qui gagnent en noblesse en vieillissant. Nous, au contraire, à la retraite, on te demande de prendre un peu moins de place ou alors d'aller consommer du loisir pour continuer de faire tourner une société dans laquelle on ne leur demande pas autre chose, finalement. Et je pense que oui, là, il y a parmi les représentations et parmi les conséquences que pourra avoir un changement de regard, je pense que ces considérations sur l'utilité sociale en font partie. Est-ce que on a le droit d'exister parce qu'on est utile? C'est-à-dire qu'on a une société, nous, qui est tournée sur le travail. Tant qu'on est à l'école, on te prépare à travailler, on te forme, donc tu es intéressant. Quand tu es actif, tu es intéressant. Et puis quand tu n'es plus productif, tu n'es plus intéressant pour notre société. Je pense que ça, c'est des... Alors, je grossis les traits, mais il y a des équilibres quand même à retrouver. Ça fait partie de cette démarche, je pense, de changement de regard.
La deuxième partie de la phrase étant « brisons les idées reçues ». Alors, en quoi consiste cette notion de briser quelles sont ces idées reçues, justement? Est-ce qu'on peut en donner quelques exemples?
C'est vrai que c'est une question, je me la suis posée, hein. Parce que le fait de briser, je trouve que c'est intéressant comme image, parce que ça voudrait dire comme une vitre, qu'il y a quelque chose d'autre derrière, il y a un miroir, il y a un autre côté, donc ça c'est plutôt intéressant vu sous cet angle.
Juste, j'interviens, je rappelle quand même que ce slogan émane au niveau national, oui. Donc ce n'est pas un parti pris du Diwa sur ce sujet.
Non, oui, effectivement. Ce sont des campagnes nationales, les Semaines Bleues, qui existent depuis très longtemps. On avait retrouvé la date, mais je l'ai à nouveau oubliée. C'était la fête des vieillards, je me souviens. On avait réussi à retrouver les vieilles affiches. Et en fait, non, c'est des thématiques qui sont valables 2 ans et qui existent au niveau national. Mais on était particulièrement heureux de la découvrir parce qu'elle correspond... Elle est tellement en raccord avec tout ce qu'on raconte là depuis 1 an et qu'on essaye de mettre en œuvre que c'était chouette de voir cette concordance avec avec les collectivités. Et en fait, c'est vrai que sur cette idée de briser les idées reçues, j'ai essayé d'y répondre pour moi-même et je me suis dit que c'était compliqué parce que c'est complexe. Ça suppose qu'il y aurait une seule sorte d'aîné. Alors qu'en fait, le début, à quel âge on est vieux, à quel âge, ça, la question reste toujours aussi grande. Et puis, je pense qu'il y a des différences de situation entre deux aînés d'un même âge. Est-ce que l'âge peut définir tout le reste de la personne? Il y a des personnes extrêmement valides à 90 ans et d'autres qui vont être beaucoup plus dépendants. Tout ça va avoir une incidence très grande sur les idées à briser, je pense. Donc, en fait, la seule chose qu'on pourrait ramener de commun, ça serait de dire que, et c'est valable pour tous les âges, c'est que dans le vieillissement, on perçoit avant tout la fin de vie, on perçoit la mort, en fait, au bout de cette histoire. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'autre chemin, si on prend l'élan vital, il n'y a pas d'autre chemin pour vivre le plus longtemps possible que de vieillir. Ce n'est pas une faute, c'est plutôt une chance, c'est plutôt une réussite de pouvoir vieillir. Et c'est vrai que de l'associer à la mort, c'est associé à une peur qui appartient à peu près à toute l'humanité, en tout cas qui est marquée, encore une fois, dans nos sociétés. Je ne me permettrai pas de parler pour les autres. Et en fait, je me dis, ça m'a permis de repenser qu'en fait, c'est ça, c'est que le vieillissement, il est perçu chez nous, avant tout, comme un corps qui vieillit. Et ça m'a rappelé une dame, parce que là, on est en train de renouveler notre projet social à l'espace social, avec les EVS, donc on est plusieurs structures là à renouveler. Et sur la partie vieillissement, j'ai interrogé des personnes âgées et d'autres, mais il y a eu des très belles phrases qui sont sorties avec une dame qui m'a expliqué qu'en fait, vieillir, en fait, on commençait à être enfermé dans un corps qui ne ressemblait plus à notre intérieur. En fait, à l'intérieur, on est toujours jeune et fringant et prêt à toutes les bêtises, entre guillemets. Et notre corps, soit ne suit plus, soit n'est plus regardé de la même manière, soit nous range dans quelque chose d'autre, qui fait qu'il y a un décalage qui se creuse avec ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et qui parfois même peut entraîner des souffrances. Et du coup, à partir de ce corps, je me disais, mais en fait, c'est ça. Je me suis beaucoup plaint, moi, pendant ces deux années difficiles, que l'État, décidément, ne parlait que des corps, ne soignait que des corps, ne prenait en charge que des corps, comme si le reste n'avait pas d'importance. Mais en fait, je pense que des gens sont mortes de solitude, de chagrin, de manque d'affection, de manque de tendresse, de manque d'échange. Et en fait, je pense que si nos corps vieillissent, l'âme, l'esprit ne vieillit pas. En fait, on reste jeune dans son cœur, on continue d'être très, très vivant. Et que c'est ces parties-là qu'il va falloir... C'est ce qui crée le décalage et que c'est peut-être ces parties-là qu'il va falloir réouvrir, reconsidérer. C'est peut-être là les idées... C'est peut-être ça le miroir qu'on brise pour aller voir un peu plus ce qui se passe dans les personnes. C'est-à-dire qu'au-delà du vieillissement, on n'est pas que vieux et on n'est pas, on peut pas être réduit à ça. On reste des individus jusqu'à notre dernier souffle.
D'où l'importance des associations, du monde associatif, qui permet justement de souvent des intergénérationnalités, hein, si je peux dire. Et justement, pour le SCDD, qui est aussi un lieu où se rencontrent s'opèrent toutes ces associations, qu'est-ce qu'il va y avoir justement pour cette semaine bleue?
Alors là, on est justement à la croisière. C'est toujours un carrefour, de toute manière, la Semaine Bleue. C'est que depuis quelques années, avec Simon Terrail, qui était notre coordinateur autonomie prévention pour le département, avant qu'arrive Mélanie, là, cet été. Et avec lui, on avait fait le constat que cette Semaine Bleue, qui était initialement créée pour faire connaître les offres d'un territoire aux personnes âgées, avait beaucoup évolué parce que, alors, pour parler de notre territoire, je pense que les offres sont globalement connues, pas toutes, il faut quand même continuer, mais elles sont globalement connues par les publics. Et en plus, on avait déjà l'idée que les activités étaient plutôt intergénérationnelles, plutôt inclusives que spécifiques au vieillissement, à part quelques-unes qui sont vraiment adaptées et voulues dans ce sens. Sinon, en fait, tout le monde peut tout pratiquer. Enfin, tout pratiquer, je ne parle pas de soie l'élastique, mais il y a beaucoup d'activités qui sont adaptées à tous les publics. Et en fait, là, on a... donc, dans les semaines bleues, à chaque fois qu'on a une session, on a l'attention portée sur le fait de faire un bilan de ce qui vient de se passer sur l'année précédente. Donc là, c'est ce qu'on va avoir beaucoup le mardi. Donc il n'y a pas que ça comme entrée. Hein. Mais le mardi à la médiathèque, déjà, on voulait faire focus sur la médiathèque parce qu'il y a les lieux aussi. On s'est dit qu'après tout, le cinéma est un lieu pour tous, qui appartient entre guillemets aux habitants du territoire, le théâtre également, la médiathèque également, et qu'il y a des publics qui se sentent moins légitimes à aller à un endroit ou à un autre. Et n'empêche que la médiathèque, on a tendance souvent à dire que c'est pour les enfants. Alors, je schématise très grandement. Hein. Mais là, on s'était dit, bah, chouette, on va essayer de faire un focus sur la médiathèque, si c'est possible. Et montrer aux personnes âgées que c'est un endroit très intéressant pour y créer des activités, des rencontres, des moments. Donc voilà, on va faire mardi une grande exposition. Donc, il y a une grande exposition. Il va y avoir le vernissage. Philippe Lamotte, qui est un photographe qui a accompagné certains projets l'année dernière.
Juste ça, elles en parlent. Hein. Ah. Donc, ce n'est pas la peine de s'étendre dessus. Par rapport à l'espace social et culturel, tu as tout dit. Hein. Alors, justement, et pour cette journée, c'est l'occasion pour l'espace social et culturel de présenter en quelque sorte la vitrine de ce qui s'opère tout au long de l'année.
En fait, c'est ça. C'est que c'est au-delà de l'espace social parce qu'on est en fait, nous sommes seulement co-animateurs du secteur vieillissement. Donc, juste pour le petit rappel historique, on avait un clic d'IWA. Donc, c'était des postes créés par le département qui étaient chez nous, Martine Chazelle, incarnée par Martine Chazelle, et qui était uniquement sur le territoire d'IWA. Donc, elle était là pour mettre en œuvre la Semaine Bleue, qui était immense à cette époque, et pour accompagner aussi le handicap. Et puis, quand les clics se sont arrêtés dans le DIWA, puisqu'ils existent encore sur d'autres territoires, le département nous a laissé quelques années nous débrouiller, on va dire, le temps de se réorganiser. Et nous avons été accueillis. Notre groupe, qui existe depuis... Moi, j'y suis rentrée en 2014, mais il existait d'avant. On était accueillis à la communauté de communes et ensuite, on a été accueillis par l'espace social qui, à cette occasion, Olivier, le directeur, s'est formé. On a des formations dans le réseau des centres sociaux sur le vieillissement pour pouvoir accueillir, comme de plus en plus de centres le font, ce public. Et voilà, ça a vivoté un petit peu. Et puis voilà, petit à petit, on a remonté ce groupe qui est devenu plus actif. Et ensuite, j'ai eu une personne du département qui est venue, donc Clément Bruchon une année, ensuite Simon Terrail. À deux, on a vraiment co-animé, on a choisi de co-animer ce groupe qu'on a appelé avec le temps Réseau Acteurs Vieillissement, le RAV. On rigolait en disant qu'on allait faire des rave parties et on espère toujours faire des rave parties. Et donc voilà, on a tout regroupé là, toutes nos questions de territoire. Donc l'idée, c'était d'avoir et l'entrée du département qui a cette approche des dispositifs d'État, de tous ces accompagnements individuels, parce que c'est surtout individuel. L'État ne travaille pas beaucoup, un peu, hein, puisqu'il donne de l'argent aux caisses de retraite qui permettent les accompagnements collectifs, mais il y en a finalement assez peu. Et donc, on a la conférence des financeurs et les caisses de retraite qui financent des projets collectifs autour du vieillissement.
Justement, je voulais m'arrêter là-dessus. Par rapport à l'après-Covid, est-ce qu'il y a eu cette nécessité de remonter un peu toutes ces activités qui s'étaient plus ou moins, fatiguées, amoindries, et par la désertion hein, de leurs adhérents même, par crainte de maladie même hein, tout simplement. Et justement, cette remise en selle de ce monde associatif, est-ce qu'il a été accompagné d'un soutien financier de l'État ? Toi, tu me parles de caisses de retraite ou d'autres organismes, mais est-ce qu'il y a eu justement un accroissement de ce budget ?
Il y a eu exceptionnellement pendant les années de crise, là, la CARSAT, qui, sur les dossiers qui étaient accompagnés par elle, elle a, au lieu des 8 000 euros accordés sur l'année, a accordé 10 000 euros. Et d'ailleurs, depuis là, elle est passée de manière pérenne depuis cette année à 10 000 euros par an. Alors, c'est des dossiers qui durent 4-5 ans. Et après, bon, alors, on renouvelle. Je ne vais pas rentrer trop dans la technicité. Mais en tout cas, oui, il y a eu un accompagnement quand même des pouvoirs publics pour essayer d'accompagner, sachant que nous, sur le terrain, parce que, alors, donc après, pour finir, on est un trio autour du réseau Acteurs Vieillissement. Il y a le département et l'année dernière, Sonia Rochat nous a rejoint avec le contrat local santé. Comme ça, on a aussi l'entrée de l'accès aux soins qui s'est ajoutée. Et puis, l'espace social que je représente et pour toute la partie territoire, milieu associatif et tous les liens d'ancrage territorial qu'on peut imaginer. Et en fait, pendant la crise, on a eu beaucoup plus de mal à se réunir Par contre, on a arrêté plus ou moins. On en a continué, mais de manière très espacée, des réunions, des grandes réunions du réseau acteurs vieillissement. Mais par contre, on a continué avec Simon de travailler en petit, en individuel. C'est-à-dire qu'on avait des projets qui étaient en cours de construction avec certains partenaires. On a continué ça, par contre. On n'a jamais arrêté, finalement. Et on n'a pas eu l'impression d'une baisse. Nous, en tout cas, nous, en ayant travaillé individuellement avec chacun, on n'a pas eu ce sentiment de baisse d'activité. Alors que quand même, pour l'ensemble, oui, il y avait eu un arrêt. Et on avait eu d'ailleurs très peur pour les clubs des aînés dans les villages, dont on a éminemment besoin, nous, sur notre territoire qui est si vaste et difficile parfois en mobilité. On avait très, très peur que cette crise ait mis par terre des associations. Et contre toute attente, alors ça reste à confirmer dans le temps, mais j'ai l'impression qu'au contraire, je sens un regain aujourd'hui et même des clubs des aînés qui essayent de se réunir, de faire des choses ensemble. Et je trouve ça... j'en suis vraiment contente et je trouve ça super vertueux, finalement. On rebondit sur ce qui est en train de se passer. C'est pas confirmé partout et pas tout le temps, mais on est quand même en train d'aller vers un nouvel élan et c'est chouette.
Eh bien, je me tourne aussi vers Séverine Gervy pour la médiathèque. Donc, vous proposez aussi au sein de cette semaine des animations, alors qui auront lieu principalement sur Die ou d'autres endroits peut-être.
Oui, en fait, l'idée c'était vraiment que la médiathèque là, elle soit lieu d'accueil pour rendre visible tout ce qui se passe aussi tout au long de l'année. Là, il y a la semaine bleue et c'est un moment de coup de projecteur un petit peu, mais tout au long de l'année, il y a des choses qui se passent avec les personnes âgées, avec tout un tissu associatif très riche en plus sur Die et dans le Diwa. Donc la médiathèque va accueillir une exposition de photographie « Que fait-on aujourd'hui ?» où le photographe Philippe Lamotte, qu'on remercie parce qu'il est grandement engagé dans toute cette action, il a parcouru tous les ateliers qui se font dans toutes les structures pour faire des photos. Et c'est ces photos-là qui vont être exposées à la médiathèque, qui vont rendre visible aux yeux de tous tout ce qui se passe dans des lieux plutôt d'habitude où on n'a pas forcément accès. Donc ça, c'était important pour la médiathèque de prendre pleinement sa part dans cette semaine bleue, de rendre visite tout ce qui se passe. On va, du coup, cette exposition, elle sera inaugurée le mardi 4 octobre à partir de 16h. Juste avant, on accueillera la chorale de l'escapade de Die. Et puis, le vendredi 7 octobre, on accueille une projection d'un film documentaire « Être aidant, parlons-en ». Voilà, parce qu'il y a les personnes âgées, mais il y a aussi tous ceux qui s'occupent de ces personnes et qui ont besoin aussi d'attention et de soutien. Projection d'un film le vendredi 7 octobre à 10h30, avec en parallèle un atelier de tricot solidaire mené par l'association des Petits Frères des Pauvres.
Voilà donc pour la médiathèque de Die. Tout au long de l'année, il existe aussi une approche auprès des personnes un peu retirées. Ou comment s'opère, est-ce qu'il y a une possibilité pour ces personnes qui sont éloignées d'avoir accès à la médiathèque et par quels moyens?
Alors déjà, je rappelle que la médiathèque, elle s'adresse vraiment à tous les publics et je crois que c'est important. On ne fait pas des actions pour les personnes âgées, pour les jeunes actifs, pour... ça c'est déjà important. Pour ce qui est de l'accès, donc nous on travaille déjà sur le territoire avec les bibliothèques de Châtillon-Diwa, de Luc-en-Diwa, Luce-la-Croix-Haute, Vercheny, la Chapelle-en-Vercors, la Motte-Chalancon, qui font aussi relais sur le territoire et sont des points d'accès aussi à la culture. Et après, on travaille, nous, plutôt sur du don de livres. C'est-à-dire qu'on est obligé de se séparer d'un certain nombre de livres chaque année pour aussi mettre les nouveaux. Et par exemple, on a fait la recyclette samedi dernier où on a donné tous ces livres-là. Et l'association qui s'occupe qui est sur l'hôpital est venue récupérer des livres en gros caractères pour les mettre à disposition des publics. Donc, c'est une des façons.
Effectivement, ouais. Juste pour conclure, c'était pour reprendre ce que tu disais, Séverine, que la Semaine Bleue, elle a vraiment vocation de retracer, de montrer ce qui se fait sur le territoire. Donc toutes les années, l'année qu'on vient d'écouler, les actions qui ont eu lieu. Donc là, effectivement, les magnifiques photographies vont permettre de mettre en valeur ces ateliers. Mais il y a eu ça, mais il y avait d'autres choses qui n'étaient pas photographiables. Mais en tout cas, on aime bien parler de ce qui a eu lieu et puis déjà semer pour l'année qui vient. Et donc, vous allez voir que dans ce programme, qu'il y a à la fois ce qui est fait et à la fois là où on va. Par exemple, on a à cœur là, de développer quelque chose sur la fin de vie, la mort. Et certainement en lien avec le théâtre qui aborde cette thématique aussi en 2023. Et on a semé déjà, on a le film au cinéma qui est « Deux jours à tuer », le film avec Albert Dupontel de Jean Becker, qui va déjà aborder la fin de vie. On a un atelier de directive anticipée le samedi. On a le début et la fin, c'est pas mal. Et voilà, donc il y a différents. On sème déjà un petit peu ces ateliers-là et d'autres thématiques qu'on va pouvoir travailler. Voilà, c'était surtout pour dire que oui, cette semaine bleue, elle sert de tremplin pour annoncer aussi l'année qui vient.
Eh bien, merci Florence.
Merci beaucoup. Et merci aux collègues parce que vraiment, c'est un gros travail d'organisation et ça fait plaisir de tricoter tout ça ensemble.
Je passe à Mélanie, vous êtes coordinatrice autonomie-prévention. Sur quel territoire ? Celui de la vallée de la Drôme ?
Tout à fait, territoire vallée de la Drôme, donc le Diwa et tout le reste de la vallée de la Drôme, donc Saillant, Cré, Livron, L'Oriole. Ma mission, c'est de coordonner les acteurs, de coordonner les actions de prévention sur des thématiques et d'accompagner les structures qui souhaitent mettre en place des actions collectives auprès des seniors, des personnes handicapées vieillissantes, mais aussi de leurs aidants. Donc la semaine bleue, c'est effectivement affiché comme une semaine à destination des seniors, mais pas que. C'est vraiment ce qu'on voulait dire. C'est un temps qui est à la fois festif et informatif pour les personnes, pour leurs aidants, mais pourquoi pas aussi pour leur entourage, les petits-enfants. Voilà, on a des actions intergénérationnelles qui permettent de casser les représentations, donc qui vont dans le sens de notre thématique. Alors, qui n'est pas départementale, hein. Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues, c'est la thématique nationale. Chaque année, il y a une thématique nationale qui est donnée à cette semaine-là. Donc c'est une thématique qui interroge au-delà du département. Et l'idée de casser les représentations, promouvoir un autre regard sur le vieillissement, la vieillesse, cette notion de jeunisme dont parlait Florence. Donc on a des actions intergénérationnelles, comme je disais, un atelier philo à la Marpa de Lucan Diwa, puisque toutes les actions n'ont pas lieu sur Di. On en a un petit peu autour, mais c'est construit par les partenaires locaux. Donc voilà, cette année, on a la Marpa de Di qui accueille cet atelier philo dans lequel les aides de Rokubo va préparer le café, des petits gâteaux, tout un moment convivial en début de journée. On a un atelier artistique au fil de soie dont parlait Florence aussi, donc entre la harpe et un atelier poterie qui a lieu entre les résidents de l'EHPAD, les enfants du centre de loisirs, et les accompagnants, les familles des résidents qui peuvent bien sûr venir aussi. Pour revenir aussi sur la thématique de fin de vie, alors là aussi, l'idée c'est de casser les représentations, de changer notre regard sur la mort, qu'on puisse en parler, qu'on puisse préparer la façon dont on a envie que les choses se passent pour nous. Donc, au-delà du ciné-débat et de l'atelier sur les directives anticipées, il y a un café mortel qui est organisé le 6 octobre à 14h. Donc voilà, comment on parle de tout ça sans tabou? Comme disait Séverine, la problématique du vieillissement, elle ne porte pas et elle ne touche pas que les seniors, que les personnes âgées, ou les vieux, comme on aime à les appeler, qui sont toujours en vie. Elle touche aussi tout leur entourage, donc leur famille, les amis, les voisins, qu'on appelle proches aidants, et pour lesquels plusieurs actions sont mises en place, et notamment donc, le documentaire « Être aidant, parlons-en », mais aussi un atelier bien-être pour qu'ils puissent prendre du temps pour eux.
Alors, vous êtes coordinatrice au niveau de l'autonomie. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'autonomie pour les seniors? Quelles sont les propositions à leur porter?
L'autonomie, c'est leur permettre de rester dans la société. Hein. Donc, comment on leur évite d'être seuls chez elles, comment on leur permet d'adapter leur logement, de sortir, de rencontrer du monde, de rester en lien. Et après, il y a toute l'autonomie tout le maintien de l'autonomie aussi physique qui va avec des ateliers sportifs, des ateliers mémoire, des ateliers sur la nutrition. On continue à bien s'alimenter pour être en forme.
Est-ce que je reviens sur une émission que j'avais effectuée l'année passée. Ça s'intitulait La Maison des Tisserands. C'est une maison qui a été créée par une infirmière qui exerçait dans la Drôme et qui a tenté de créer cette maison qui permettait de recevoir 3 ou 4 personnes âgées et qu'elles puissent vivre en toute autonomie avec des visites d'assistance médicale s'il le faut ou de soutien. Ça n'a pas été possible. Dû au coût qui est monté, du coût des terres qui ont augmenté avec le Covid hein, depuis. Quelles sont les possibilités, justement, c'est pour ça que j'amène l'idée de l'autonomie. Qu'est-ce qui permet de définir l'autonomie actuellement, par exemple, dans la Drôme
Alors,
vous parlez d'espace soit à domicile où les personnes peuvent rester, mais oui. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés à être seules oui. chez elles. Et donc, soit on leur propose une maison commune ou alors une maison de retraite, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi? Et est-ce que c'est un cheminement sur vos perspectives là-dessus?
Alors, entre le domicile et l'EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, il existe les résidences autonomie. Donc comme la MARPA qui va nous accueillir. Donc l'idée d'une résidence autonomie, c'est d'accueillir les personnes qui sont encore autonomes, donc encore en capacité d'effectuer les gestes essentiels de la vie quotidienne, qui ont un logement indépendants dans cette résidence autonomie, mais qui ont accès à des animations collectives, à une possibilité de manger ensemble, donc il y a une salle à manger commune, qui choisissent d'investir ou pas, c'est vraiment un choix de la part des résidents, c'est eux qui prennent leurs décisions, c'est eux qui font intervenir le service d'aide à domicile de leur choix, les infirmières de leur choix, etc. Donc il existe cette possibilité. Il existe aussi, ou en tout cas c'est une idée à construire, d'ouvrir des maisons, et effectivement, de permettre aux personnes de vivre ensemble, d'investir ensemble une maison et de cohabiter. C'est de la cohabitation. Voilà.
On parle aussi de maisons intergénérationnelles également. Est-ce que ça en fait partie aussi de cette notion?
Oui, ça peut en faire partie. Je n'ai pas d'exemple dans la Drôme. Alors voilà, c'est un appel. Un appel, s'il en existe, pourquoi pas venir se présenter et témoigner à Radio Diwa. Ce qui se fait aussi avec une association qui s'appelle Solidarité Habitat, qui est sur Eure, mais qui diffuse sur tout le département, c'est de la cohabitation intergénérationnelle. Donc des personnes âgées qui se retrouvent seules dans leur grande maison, qui mettent à disposition une chambre pour accueillir un étudiant, alors sur des études longues ou même qu'un stage, ou un travailleur qui a besoin d'un petit endroit où loger, pas trop cher. Et qui va rendre des services à la personne âgée, donc qui va manger avec elle tous les soirs, qui va faire un jeu de société ou autre.
Effectivement, nous avions diffusé 4 spots l'année dernière, justement sur cette problématique. Enfin, c'est pas une problématique, mais plutôt un progrès. Et puis de pouvoir réunir plusieurs générations sur un même lieu. Et puis je me tourne vers Séverine. Responsable de la médiathèque, pour vous, quelle est l'activité de la médiathèque à l'encontre de ces personnes âgées, justement? Vous parlez de dispositifs un peu partout dans le Diwa. Est-ce qu'il fut un temps où existait, où il existe peut-être encore, le bibliobus?
Oui, non, le bibliobus n'existe plus. Et puis, le bibliobus était vraiment un outil destiné aux bibliothèques des communes. Donc, c'est-à-dire que les habitants ne montaient pas dans le bus. Donc, il n'existe plus sous cette forme. Nous, on n'a pas les forces de faire, par exemple, du portage à domicile, mais parce qu'on n'a pas les forces en termes d'équipe. Par contre, on peut travailler, nous, avec un collectif, une association qui souhaiterait mettre en place quelque chose comme ça, où là, bien sûr, nous, on peut être soutien en prêt de documents sans problème.
qui me permet de dire que l'appel à projet sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie vient de s'ouvrir. Et c'est une possibilité d'avoir un financement pour des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie. Et pourquoi pas imaginer effectivement des partenariats avec la médiathèque pour proposer des choses auprès des personnes isolées.
Alors là, il était édité pour cette occasion une petite brochure qu'on peut se procurer où d'ailleurs ?
Alors, elle est disponible à l'espace social et culturel du DIWA. Elle est en consultation au centre médico-social de DI, au CCAS de DI. Vous la trouverez aussi sur le site du département de la Drôme, en version dématérialisée.
Tout le programme du DIWA sera aussi sur le site de la médiathèque.
À la médiathèque, vous présentiez cette animation qui sera proposée.
Oui, l'exposition, l'inauguration de la Semaine Bleue, qui sera aussi un temps de convivial, j'ai envie de dire festif, qui aura pour but aussi de rassembler tous les acteurs de cette semaine. Il y a des résidents de l'EHPAD qui vont venir à cette occasion voir l'exposition. Voilà, ça va être un joli moment.
Il y a des œuvres réalisées par les résidents de l'EHPAD qui vont être exposées.
Des œuvres réalisées aussi dans le cadre des ateliers de trajet spectacle qui vont être présentées.
Voilà, et je vois aussi médiation artistique intergénérationnelle. Ça, c'est avec l'EHPAD Le Fil de Soie aussi.
Tout à fait.
Donc, il y aura multiples animations. Hein. Il est important de se procurer ce petit fascicule parce qu'il y a énormément de rendez-vous à prendre ou à voir. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cet après-Covid ? Ça a mis en évidence des grandes difficultés pour des personnes en retrait. Comme disait Florence, certaines sont mortes de solitude. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience ?
Alors, ce qu'on voit, c'est que cette histoire de confinement fait qu'aujourd'hui, les gens s'ouvrent encore plus. Et on voit dans cette semaine bleue le nombre d'actions qui se met en place est bien supérieur au nombre d'actions qui ont eu lieu l'année dernière. Donc, il y a un engagement de la part des structures locales. Il y a une sorte de dynamisme ou dynamique locale qui est bien présente et qui se remet en route, quoi.
Pour finir, j'ai envie de revenir sur cette phrase. Hein. On a parlé de changeons nos regards, mais brisons les idées reçues. Alors, quelles sont ces idées reçues que l'on doit briser ?
Que nos vieux ne servent à rien. C'est une idée reçue. Comme disait Florence, elles sont mises de côté. On en parle à part. Donc voilà, arrêtons de les laisser de côté. Incluons-les dans notre société à nous. Voilà, qu'on apprenne à revivre tous ensemble. Qui soit culturellement, dans certains pays, les vieux, c'est plutôt les sages, c'est plutôt des personnes qu'on met en avant. Chez nous, c'est l'inverse. Est-ce qu'on pourrait pas les remettre sur le devant de la scène ?
Et pour cette semaine, RDIWA sera aussi présente. Et ça, Séverine, j'y reviens.
Oui, puisque Vincent Oran sera présent du coup à la médiathèque le mardi 4 octobre avec son micro, comme il a l'habitude voilà, de le faire à la médiathèque pour aller demander un petit peu aux gens leur ressenti, puis peut-être questionner sur le regard justement qu'on a sur les personnes âgées.
Leur essentiel, je crois qu'ils vont... C'est là-dessus aussi qu'il interroge. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous ? Alors du coup, effectivement, on va retrouver Vincent sur une action qui est portée par le Théâtre Les Airs. L'idée, c'est d'interviewer les personnes du DIWA afin de traiter la question de l'essentiel pour chacun, avec un focus porté sur des personnes âgées du DIWA.
Je vous remercie Mélanie Crière et Séverine Gervie d'être venues sur RDIWA pour nous parler de cette semaine bleue qui aura lieu donc du 3 au 9 octobre dans la vallée de la Drôme. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous aussi et au plaisir de vous voir entre le 3 et le 9 octobre.